Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonsoir à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Donc, nous voici dans les arènes de l'écologie, comme tous les mercredis de 19h à 20h. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième édition de l'écolomythique, le forum des associations. Et pour faire bonne figure, on n'a pas moins de 5 associations ce soir. Donc, le temps va être compté. Donc, on a ce soir pour première association Pic-Pic, qui est avec caméra, qui nous expliquera qu'est-ce que Pic-Pic. Ensuite, on va voir les amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly avec Dominique. Ensuite, on aura les étudiants de la Fédération nationale des étudiants de géographie avec Maëlle et Alexis. Ensuite, on aura la SEM avec Maxime, donc ça c'est du côté de Guyancourt, et Piverte Bio, qui, comme son nom l'indique pas, est une association d'ornithologie et s'occupe des batraciens, si j'ai bien compris, de Seine-et-Marne, avec Emmanuel qui va pas tarder à arriver. Donc cette émission va être un peu spéciale, donc il va falloir qu'on soit très, très actif, mais néanmoins je ne peux pas non plus éluder l'agenda de la ministre, notre petite rubrique sur l'agenda de la ministre. Alors, donc que s'est-il passé cette semaine sur l'agenda de la ministre? Eh bien, pour tout vous dire, ça a commencé par Marine. Mais bon, non pas celle de Clichy, celle qui a confondu les indemnités du Parlement européen avec une vulgaire rente viagère des Simon Lambert. Non, je parle bien sûr de la Marine, celle du Musée national où se tenait le sommet SOS Océan lundi matin. Bon, faut reconnaître que Madame la Ministre ne s'y est pas attardée bien longtemps. Peut-être aussi pour éviter de recroiser Claire Nuvian, la directrice de Bloom, qui l'avait alpaguée pour dénoncer l'imposture de sa conception des aires marines protégées. Où on peut tout autant aire marine protégée, où on peut néanmoins en même temps chaluter et peigner les fonds marins et les plateaux continentaux. Bon, comme vous pourrez le voir sur Facebook, la fondatrice de Bloom est sortie de la conférence comme une murène en colère, disant qu'il va falloir tirer ça au clair sur cette histoire d'aire marine protégée, avant que ça dégénère en bagarre de rue. Bon, on y reviendra bientôt. Notre ami Ben, qui n'est pas là ce soir, vous en êtes aperçu, s'en charge déjà. Il est à l'heure même en réunion avec les gens de l'UNESCO pour aborder ce sujet. Bon, en tout cas, Madame la Ministre est partie Fissa, s'est éclipsée bien rapidement du musée pour aller à l'Élysée pour le 4e conseil de la planification écologique que naturellement tout le monde attendait. Bon, les vêtements avaient été programmés, certes, mais bon, je ne sais pas qui s'occupe des agendas au Palais de l'Élysée, mais on aurait peut-être pu lui dire qu'il risquait d'avoir un carambolage médiatique. En effet, Bénédicte de Pertuis avait annoncé depuis des mois déjà son intervention. Elle a décortiqué le système de détournement de l'héritière de la boutique de Montretout. Entre les deux événements, naturellement, la presse a vite fait son choix. Mais la planification écologique, qui n'est pourtant rien moins que l'organisation du plan de secours pour éviter une catastrophe à plus 4 degrés, est restée encore une fois lettre morte. Mais vous inquiétez pas, chères auditrices et chers auditeurs, nous allons pouvoir traiter ce sujet dans une émission le 7 mai. On va consacrer entièrement à cette question-là pour voir un petit peu quelle est la feuille de route. Bon. Quoi qu'il en soit, dès mardi, Agnès Pannier-Runacher est repartie dans le Morbihan avec Kostas Kadis, le commissaire européen chargé de la pêche et des océans. Comme on vous dit, les questions maritimes reviennent toujours et encore, sans que pourtant le sujet n'émerge vraiment dans le débat public. Alors, donc là aussi, on va y regarder à deux fois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait sur l'agenda? Madame la ministre avait rendez-vous avec le ministre danois du climat et de l'énergie, un Lars un Lars Haggar avec un nom à coucher dehors, même au Groenland. Mais il n'y a pas moins de 4 A dans son nom. C'est quand même surprenant. Bon, ceci étant, c'est pas bien, bien grave. Bon, qu'est-ce qui s'est dit ? J'en sais trop rien. Bon, en ce moment, Madame la ministre serait au comité de suivi des services publics éco-responsables. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous me direz, j'en sais pas grand-chose moi-même. Bon, si j'ai bien compris sur Internet, c'est une sorte de comité où on va répertorier tous les efforts qu'ont pu faire les services publics pour réduire l'empreinte carbone. Bon, c'est pas mal, mais ça avait été lancé, par exemple, ça avait été lancé en 2020 lors d'un conseil de défense de l'écologie. Donc on se dit qu'il y a 5 ans, on avait quand même un autre vocabulaire pour parler d'écologie. On parlait de défense. Bon, on a un peu l'impression que l'emphase est retombée, que les urgences sont un petit peu décalées. Bon, demain, pour Madame la ministre, c'est Yann Arthus Bertrand, président de Good Planet, le forum des éco-entreprises, puis la troisième journée de la mode circulaire, pour finir par un entretien avec Emmanuel Valls et de repartir vendredi dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, vous l'aurez constaté, rien de très warrior, rien que des warriors de l'écologie sur le planning de Madame la ministre. Bon, peut-être qu'il serait temps de lui rappeler les paroles d'Aimé Jacquet, qui, à l'adresse de Robert Pires, qui lui avait dit « Muscle ton jeu, Agnès, muscle ». Effectivement, on aimerait avoir une écologie un peu plus affirmé.
Impactante.
Voilà. Bon, bah écoute, Olivier, je te laisse présenter nos amis.
On va commencer par demander à Caméra de se présenter, plus exactement, et de présenter donc Pipic Environnement, à commencer par savoir quand est-ce que vous avez créé cette belle association et quel est son objectif.
Super, bah déjà, merci de nous avoir invités, c'est vraiment très sympathique, et bravo pour ce que vous faites, bravo pour l'engagement, merci à France Nature Environnement. Alors, Pipic Environnement, c'est une asso qui a fêté ses 16 ans, le 8 mars, et on a fait exprès d'avoir notre date anniversaire le 8 mars, c'est une asso de maman au départ, maman engagée, des Hauts-de-Seine, et nous ce qu'on fait, c'est de l'éduc-pop, l'éducation populaire, depuis 16 ans en Ile-de-France. Et on vient de revoir complètement notre projet stratégique maintenant pour faire de l'écologie populaire. Voilà. Donc c'est quelque chose de un point beaucoup plus engagé par rapport à ce qu'on a pu faire dans l'éducation depuis plusieurs années. Ça fait donc plus de 16 ans qu'on accompagne les citoyens au changement. Et il y en aura le bol d'accompagner. Vu la situation, vu le feu, vu l'incendie qui est autour de nous, c'est un peu gentil. La petite goutte du colibri, je pense que ça avait son heure dans les années 90. Maintenant, je pense qu'il faut être un peu plus radical. Et on veut être pour une écologie un peu plus engagée, un peu plus radicale.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire écologie engagée alors ?
Qu'est-ce que ça veut dire écologie engagée ? Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de décloisonner l'environnemental et le social. Donc on a entouré ici, par exemple, d'associations géniales qui s'engagent pour la protection de l'environnement, ou tout à l'heure vous parliez de Bloom, du plaidoyer pour l'environnement, mais c'est très cloisonné. C'est-à-dire dans le monde associatif, tu as des associations féministes qui s'occupent des femmes, des associations antiracistes, des associations de protection, de plaidoyer, etc. Mais l'idée, c'est comment faire pour faire plutôt une convergence des luttes et travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on aime bien l'approche des ODD, des objectifs de développement durable, avec cette approche systémique. Et nous, on a choisi l'ODD 3, santé, bien-être, parce qu'on trouve que c'est en termes d'écologie, c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est assez difficile de rencontrer quelqu'un qui va te dire « moi, la santé, ça ne m'intéresse pas ». Alors que tu leur parles des arbres, de la faune, de la flore, ça ne les intéresse pas, la mobilité, ça ne les intéresse pas, etc. La santé, c'est le sujet qu'on a trouvé en tant qu'asso de maman, pour les publics que l'on voit, qui sont surtout des mamans et des enfants 15-25. Mais nous, c'est les deux leviers qu'on a choisis pour notre association pour changer le monde, les mamans et leurs enfants. Et dans les sujets que l'on fait, on aborde tous les sujets, des sujets de consommation, comment être plus responsable, des sujets de protection de la nature et surtout des sujets autour de la santé.
Vous réunissez ces...
Comment ça se passe ? On a deux volets, un volet comprendre et un volet agir. Volet comprendre, on démultiplie des actions, souvent courtes, de découverte de sujets. Ça peut être un atelier, un stand, une balade, une conférence, etc., des nettoyages. Là, c'est ce qui permet d'interpeller les gens et de rallier à nous des gens qui, a priori, ne s'intéresseraient pas à nos sujets. Donc, c'est un peu ouvrir ses chakras, un peu le choc, la découverte. Et ensuite, on passe à une phase 2, la phase passer à l'action, l'action d'abord individuelle et surtout l'action collective. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution de l'écologie. On nous a beaucoup vendu les éco-gestes, l'action individuelle, est-ce que tu fais 2 tonnes, etc., etc. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de mettre du collectif. Donc, on commence bien sûr par se changer soi-même, mais l'idée, c'est de pouvoir embarquer les autres, ses voisins, ses amis, sa famille. Et on sait qu'on pourra changer la société par l'action collective. D'accord. Et ça, les actions collectives, pour te donner des exemples, ça peut être installer un jardin, installer un composteur, ça peut être ouvrir un café associatif. Enfin, tu vois, ça, chaque projet est différent.
Ça, c'est des grands projets, mais la semaine prochaine, vous allez faire quoi avec les membres ?
Oh là 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 là. Là, on est sur quoi ? Là, actuellement, on va faire un bio-blitz, un City Nature Challenge.
Là là.
Donc ça, c'est de la découverte. On emmène les gens dans les parcs. Et comme on travaille beaucoup, beaucoup dans les quartiers populaires, très souvent, ils ne se sentent pas les bienvenus dans les parcs. Enfin, on ne les a pas beaucoup mis à l'aise là-dessus. Donc nous, on les emmène dans les parcs et avec nos smartphones, on va prendre des photos, on va faire un inventaire sur une application qui s'appelle iNaturalist. Et ça, ça va partir. C'est la science participative, quoi. Et ça, c'est un petit événement tout bête, mais c'est un programme Reconnect qu'on avait commencé avec France Nature Environnement. C'est pour reconnecter les gens à la nature. Donc tu trouves la petite porte, le petit truc sympa, le goûter, le pique-nique, la campagne photo, etc. Et ça déclenche quelque chose chez les gens. Donc ça, c'est la phase découverte. Et après, une fois qu'on a passé cette phase découverte, on passe à l'action.
Alors, quelle action ?
Alors, l'action, nous, l'objectif de nos actions, c'est l'empowerment, redonner le pouvoir d'agir aux citoyens. Ils ont l'impression... Alors déjà, le mot citoyen, il est super important parce que quand tu parles aux collectivités, elles te disent, attention, citoyen, c'est une définition très précise, c'est ceux qui peuvent voter. Ça tombe mal, les gens avec qui on bosse, la plupart du temps, ils ne peuvent pas voter. Mais pourtant, pour nous, c'est des citoyens parce qu'ils s'impliquent dans la cité. Donc nous, on essaye de redonner le pouvoir aux gens un peu contre ce que l'ordre établit, quoi. Donc, redonner le pouvoir d'agir. Concrètement, quand on écoute à la télé, on a l'impression que... Je regarde l'heure en même temps. Ouh là là, mon Dieu, je parle trop. Quand on regarde la télé, on a l'impression que le pouvoir citoyen, c'est voter. Et en plus, quand tu votes, on t'arnaque. Donc, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est le pouvoir citoyen, c'est tout le temps. Tu peux retrouver le pouvoir à l'école. Quand tu es maman, tu peux retrouver le pouvoir à l'école. Tu peux retrouver le pouvoir auprès de ton bailleur, dans ton immeuble, tu peux retrouver le pouvoir dans ta mairie, dans ton conseil de quartier, etc. Et ça, les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, nous, ce qui nous fait très plaisir, c'est quand des gens, surtout des classes populaires, se rendent compte qu'ils peuvent changer les choses. Ça, c'est le but ultime de l'asso.
Olivier.
Et vous avez aussi, j'ai vu que vous aviez fait un festival de l'alimentation durable.
On est en plein dedans là.
Terminé, c'est ça, oui, qui est en plein dedans. Alors justement, c'est l'occasion de faire un petit bilan, ou si vous pouvez vous adresser
bah
à pour
exemple,
le faire.
Là, par exemple, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de la santé, l'ODD 3 santé. Nous, on sait que le sujet qui touche tout le monde, c'est la bouffe, c'est l'alimentation. Tout le monde mange et tout le monde aime manger, a priori. Et l'alimentation, c'est un sujet extrêmement systémique. Quand tu parles d'alimentation, tu parles de nature, tu parles de déchets, tu parles de santé, tu parles de tellement de choses. Donc nous, on utilise la bouffe à tout bout de champ. Le Front National passe aux élections, on fait un couscous géant, banquet antiraciste. C'est le festival de l'alimentation. On va faire une rupture du jeûne où on invite tout le monde pour découvrir comme ça de l'interculturel. Donc voilà, par l'alimentation, on arrive à aborder plein de gens et surtout à relier des gens qui sont très différents et qui, a priori, ne se seraient pas parlé.
D'accord.
Et juste la chose qu'on a mis en place, et j'arrête là, voilà, je suis rappelée à l'ordre, ce sont les maisons d'écologie populaire. Donc, c'est comme des cafés associatifs. Et ça, on avait commencé avec une asso des mamans de quartier qui s'appelle le Front de Mer de Fatima Wassak. Donc, il y a une première maison d'écologie populaire à Bagnolet. Et maintenant, on en ouvre partout. Île-Saint-Denis, Paris 19e, Boulogne, etc. C'est comme les cafés associatifs, c'est des lieux, parce qu'en fait, on a besoin d'un lieu pour se retrouver, d'un lieu convivial, où on prend un café, on papote, on prend soin de soi, et ensuite, on se forme et on passe à l'action.
Donc les agendas, tout ça, on retrouve ça facilement sur Internet.
Sur le site de Picpic, PIK, et on n'est pas très doué en com.
Bon. Et le libéral du site, vous le retrouvez également sur le site de l'émission.
Sur la page Instagram.
De Radio Allègre. À Ligre, pardon.
Ok.
Parce qu'il y a de l'allégresse.
Oui, c'est ça. Exactement ça. Après ces belles paroles.
Merci à vous tous, en tout cas.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, maintenant, ça va être au tour de Dominique de la forêt de Saint-Germain et de Marly. Alors, on est dans l'ouest parisien.
Tout à fait. Donc, c'est une association qui a été créée en 1973. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de la création de cette association, parce que c'est une belle histoire. À l'origine, c'était des gens qui se sont réunis pour s'opposer au tracé initial de l'autoroute A14, qui devait initialement couper la terrasse de Saint-Germain, dessinée par le nôtre, et faire une saignée de plus dans la forêt. Il se trouve que François Mitterrand, un jour, jouait au golf, qui est devenu président, jouait au golf dans le golf de Saint-Germain. Et à la sortie du golf, il voit des gens qui braillaient dans la rue. Donc il se demande ce que c'est. Il se fait expliquer la raison de cette manifestation. On lui explique, voilà, un projet d'autoroute qui va un petit peu abîmer la forêt. Et ça ne lui a pas plu. Donc il a convoqué tout le monde. Tous les parties prenantes, et il a dit non, ça ne se passera pas comme ça. On va faire un tracé souterrain sous la terrasse de Saint-Germain et sous la forêt de Saint-Germain. Alors, bien sûr, ça a coûté un petit peu plus d'argent, ça a pris un peu plus de temps, mais on voit que des fois, le militantisme, ça peut payer. Voilà, c'était la belle histoire de notre création d'association. Alors, depuis, l'association d'un côté militant a basculé, enfin glissé vers un côté plus pédagogique. Alors aujourd'hui, nous organisons des sorties en forêt de Saint-Germain et de Marly, avec toujours un thème particulier. Ce ne sont pas des randonnées, c'est des sorties pédagogiques sur les écosystèmes forestiers, les champignons, la botanique, l'ornithologie. On fait aussi un petit peu de sylvothérapie, de dessin botanique. Là, on va organiser prochainement un concert au mois de juin en forêt de Marly. L'objectif, c'est toujours d'amener les gens en forêt pour les... qu'ils apprécient, qu'ils aiment la forêt, en partant du principe que on protège ce que l'on aime et qu'on aime ce que l'on connaît. Donc plus on va connaître la forêt et son écosystème, plus on va peut-être...
Peux-tu nous rappeler combien d'hectares est mesure cette forêt de Saint-Germain ? Alors,
ce sont des petites forêts. Hein. Marly, c'est 1700 hectares. Saint-Germain, c'est 4000 hectares. Hein. Alors, quand on compare par rapport à ce qui brûle en Amazonie ou en Sibérie, c'est petit. Hein. On est bien conscient que... On est en train de vider l'océan avec une petite cuillère, mais il faut quand même essayer de le faire.
D'accord. Voilà. Mais donc, tu nous dis qu'on aurait pu, les fous de la bagnole auraient pu carrément empiéter sur les jardins de Saint-Germain
C'était le projet initial. Et puis, de toute façon, je vous rappelle, l'autoroute A13 coupe dans toute sa longueur la forêt de Marly. Hein. Il y a aussi des voies de chemin de fer qui traversent la forêt de Saint-Germain. Il y a aussi des routes nationales. Donc, couper une forêt pour les pouvoirs publics, ce n'est pas vraiment un problème.
D'accord, donc effectivement, il était nécessaire de se battre et de...
Mais c'était un coup de chance que François Mitterrand sorte du golf, qu'il ait déjà préféré le golf à la pétanque. Voilà.
Bon. Mais bon, il a eu les moyens de décider un certain nombre de
choses.
Tout à fait. Qu'en 81, il s'est quand même passé du temps entre 73 et 81.
Bah oui, mais pour construire une autoroute, ça prend du temps, donc...
Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes plus dans une activité de découverte et de...
Là, on a conservé quand même le côté militantisme. On a essayé...
Donc vous voyez qu'il y a des sujets sur lesquels il faut être vigilant ?
Bien sûr, il y a toujours des sujets. Hein. Bon, on s'est battu contre une petite portion du tram 13 qui reliait la gare RER de Saint-Germain. On a perdu ce combat. Mais il y a quand même toujours des sujets. Là, il y a un projet de... de voie ferrée entre, reliée à Normandie, qui devrait aussi passer sous la forêt de Saint-Germain, avec peut-être des puits d'aération, des sorties de secours. Donc il faut être toujours vigilant à ce que les forêts ne soient pas attaquées. La forêt de Saint-Germain a obtenu le statut de forêt de protection, hein, qui est censé protéger un peu le foncier. Mais il y a toujours des menaces, donc rien n'est toujours
rien n'est acquis, quoi.
Voilà.
Ok, alors on fait comment pour bon, c'est surtout les gens qui sont dans cette zone-là de Saint-Germain-en-Laye qui vous fréquentent.
Oui, oui, bien sûr. C'est toutes les communes autour de la forêt de Saint-Germain et de Marly. Essentiellement, on a quelques Parisiens, on a quelques gens un peu plus loin, mais c'est essentiellement une association locale. Hein, on a fini l'année 2024 avec 165 adhérents. Nous n'avons aucune subvention des pouvoirs publics ou des mairies avoisinantes. Voilà, donc complètement autofinancé.
D'accord. Bon, bah écoutez,
c'est... Et même chose, hein, si vous êtes intéressé par l'action de cette belle association, si vous voulez les rejoindre, eh bien, vous trouvez les coordonnées. Vous avez un site, hein, qui est facile à trouver de toute façon. Et ce sera également sur le site Instagram de l'émission.
Voilà. Mais néanmoins, c'est, puisqu'il nous reste deux minutes, sur ces émissions, sur ces associations de défense et de vigilance, il y a. Avec le temps, il y a une expérience de combat qui a pu s'accumuler. Aujourd'hui, c'est partagé. Est-ce que vous mettez ça en réseau ? Donc, je sais que vous êtes fait partie de France Nature Environnement Île-de-France, mais par-delà, est-ce qu'il y a cette spécificité, je dirais, d'association de défense ? Est-ce qu'il y a des
Alors, nous faisons partie d'une fédération, la Fédération nationale des sociétés d'amis des forêts, qui regroupe un certain nombre d'associations de notre type.
D'accord.
Et c'est une forêt domaniale, c'est une forêt privée,
C'est une forêt domaniale, donc qui appartient à l'État.
L'État, d'accord. Hein, okay.
Et dont l'ONF est gérant.
D'accord. Et vous avez des bonnes relations avec l'ONF, vous faites mal de choses avec eux,
très bonnes relations avec l'ONF. Là, récemment, nous avons fait une plantation participative sur la forêt de Marly avec l'ONF. Hein, donc on a sponsorisé en fait une plantation.
Vous avez planté quoi ?
Alors on a planté du chêne, des alisiers et des arbres de Corse.
D'accord. Ok, bah écoutez, c'est parfait tout ça. Donc,
merci Dominique.
Take a tighter of the world. In fact, it's giving all. I'm the kind of fun I miss a world.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et vous venez d'écouter sur Allegre FM The Clash, I'm So Bored With USA, un titre de 1977, donc ça remonte à quelques années que nos ententes avec, l'entente avec les USA et n'est pas forcément cordiale avec tout le monde.
Oui, bah peut-être tu peux traduire.
Ça veut dire oui, je suis fâché avec les États-Unis, avec les USA.
D'accord, mais bon, tu connais mon niveau d'anglais, donc il vaut mieux préciser les choses.
Eh bien, c'est fait.
Bon, en géographie, par contre, ça va mieux. Donc, justement, on accueille ce soir l'association, la Fédération des étudiants en géographie. Donc, il y a deux représentants, Maël et Alexis, qui nous viennent des facs de Paris, allez-y, maintenant je vous laisse vous présenter, compléter.
Alors, bonjour, moi c'est Alexis, je viens de la fac de Paris-Cité, donc anciennement d'Hydro, maintenant Paris-Cité. Et vas-y, je vais se présenter. Puis je continue.
Et bonjour, moi c'est du coup Maël, et tout comme Alexis, je viens aussi à l'université Paris-Cité.
Oui, ça nous perdu, nous les vieux, on parlait de Paris 5, Paris 7. Donc maintenant, c'est Paris Cité.
Oui, c'est la seule association qui a décidé de se retirer son numéro pour faire un peu pas comme les autres, finalement.
D'accord, ah bon, vous restez originaux. Alors, bon, ceci étant, ça c'est l'université. Vous êtes l'association des étudiants en géographie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fédération? Pourquoi les géographes ont besoin de se fédérer encore et encore?
Alors du coup, nous, notre acronyme, c'est l'AFNEG,
oui.
AFNEG, pour Association Fédérative Nationale des Étudiants en Géographie, Aménagement, Développement, Environnement et Discipline Territoriale.
Oula.
C'est très long, pour ça qu'on l'abrège avec quelques lettres. Et donc, techniquement, elle a été créée en 2007. Et donc, notre fonctionnement sur la démocratie participative, donc on réunit des associations. Et aujourd'hui, donc, on a 31 associations environ pour à peu près 5000 étudiants, ce qui est quand même assez considérable. Et donc voilà. Et donc notre intérêt, notre objectif, c'est de représenter et défendre les intérêts des associations étudiantes et des étudiants en géographie. Donc on se regroupe et on sert à faire aussi.
Pourquoi la promotion. Vous avez besoin de vous réunir? Parce qu'il n'y a pas tant de fédérations, d'associations disciplinaires à la fac, bon, à moins que tout ait changé depuis que j'ai quitté l'université. Mais...
Alors à la faculté, au sein même des facultés, il existe déjà les fédérations de territoire, donc directement les fédérations des facultés directement, et parfois même, comme c'est le cas sur Paris, d'une fédération de... toutes les associations et donc à peu près toutes les universités présentes sur le territoire parisien. Donc nous, on est une fédération à échelle nationale et on va toucher donc la fédération... on est une fédération dite de filière, donc on va toucher en fait toutes les licences et les masters de géographie, donc de l'enseignement supérieur présents sur le territoire national. Et comme a dit mon camarade Alexis juste avant, on représente 31 associations à l'échelle nationale, donc de Paris, de Lille, Brest, Poitiers, Bordeaux...
À peu près toutes les universités où s'étudie la géographie ou...
On s'efforce, on n'a pas forcément non plus toutes les antennes au niveau local, mais ouais, on est quand même présent sur la plupart des territoires où la géographie est présente, et on s'efforce toujours d'être présent ou de garder un contact avec les associations et même les licences présentes.
Alors la géographie, c'est quoi aujourd'hui? Toujours la présentation du grand cadre national, où on est plus dans l'opération, dans les choses concrètes, et puis aussi la question un peu qui tombe sous le sens, géographie et écologie, ça se marie bien.
Bah alors la géographie aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on voit au lycée avec les cartes et les échanges mondiaux, c'est plus une science sociale qui étudie les rapports des sociétés avec leur espace. Et nous, dans notre licence, on a eu beaucoup d'aménagement du territoire, d'urbain, mais on fait aussi de la géologie, géomorphologie, sciences sociales, etc. Et donc évidemment qu'on traite des questions de l'écologie et de tout ce qui en touche, parce qu'on traite du concret, mais on traite de l'environnement, de la nature, de la terre en elle-même, puisque bon, on est dessus, et voilà.
Ouais, et comme aujourd'hui la géographie, c'est avant tout une discipline c'est une discipline scientifique interdisciplinaire. Donc on va toucher la sociologie, la géographie en telle quelle. Donc la construction et l'étude des cartes, ça reste aussi un peu l'essence même de notre discipline. Mais tout ce qui va être sur de la sociologie, de l'environnement, climatologie, la géographie va pouvoir permettre d'étudier toutes ces questions en liant toutes ces disciplines. Donc aujourd'hui, comme l'écologie et les les combats environnementaux sont présents de plus en plus souvent et dans différentes domaines et dans différents domaines scientifiques. Donc la géographie permet d'étudier différents sujets, donc là notamment l'urbanisme, et d'y intégrer les questions environnementales et écologiques, notamment lorsqu'on va venir aménager une ville, comment on peut la rendre plus écologique et pas seulement se dire bon bah voilà, comme on a vu tout à l'heure, il faut installer une nouvelle voie ferrée, super, comment on peut faire aujourd'hui en tant que géographe et avec nos études, faire en sorte de respecter justement...
Vous faites des études d'impact par exemple, ça fait partie de ces choses
Totalement, il y a des diagnostics territoriaux qui sont fait sur des espaces ruraux tout comme sur des espaces urbains et effectivement après il y a tout ce qui va passer aussi sur les études d'impact, comment notre aménagement ou tout simplement un réaménagement ou une renaturation.
Donc vous essayez de penser le territoire, c'est ça un peu le boulot des géographes aujourd'hui.
Exactement.
Et puis se projeter pour éviter les bêtises qu'on a peut-être pu faire par le passé. Donc vous positionnez, je dirais, à la fois comme défenseur mais surtout comme capable de marier les territoires, donc la nature pour faire simple, avec la dimension sociale des humains qui ont forcément une certaine empreinte.
Ah, oui, c'est ça.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est un peu bête de penser écologie sans penser humain et sans penser tout ce qui découle de l'humain. Enfin,
c'est clair que la nature n'a pas besoin de l'homme, mais l'homme a besoin un peu de la nature.
C'est ça, l'écologie, c'est pas une lutte pour la planète, mais c'est une lutte pour nous. Et en fait, aujourd'hui, si on doit penser écologie dans la plupart, en tout cas, nous, de nos disciplines en géographie, c'est essentiellement pour pouvoir permettre de continuer et de s'adapter à ce changement, mais aussi en respectant la planète sur laquelle on vit.
D'accord. Donc, cette thématique, alors je sais qu'il y a un festival de géo, tout ça, c'est un petit monde à soi, la géographie. Est-ce que c'est cette montée, comment vous appréciez la montée, je dirais, des conflits et on a l'impression que ça se tend en ce moment, les débats sur, ne serait-ce que en agriculture, l'utilisation ou non des pesticides, tous ces impacts-là, la gestion de l'eau, est-ce que ça vous paraît... non, c'est pas simple.
Vas-y, je t'en prie.
Non, c'est pas simple du tout. Alors, après, nous, on est satisfaits qu'il y ait de plus en plus de mobilisation, que, surtout chez les jeunes, et puis même chez les moins jeunes. Hein, parce qu'on critique souvent nos aînés en disant « Oui, ils sont pas arriérés, ils ont des idées », alors qu'en fin de compte, pas tant que ça, ce qui nous rejoigne aussi sur beaucoup de sujets. Mais cette montée des contestations va aussi de pair avec une montée de l'inverse, et des actions qui sont négligeables pour l'environnement. Si on parle beaucoup des... Notamment, la tension d'eau, c'est qu'on en fait de plus en plus. Les pesticides, on revient en arrière. Donc d'un côté, on est content parce qu'on se mobilise plus, mais on se mobilise plus aussi parce
qu'il y a des réactions, quoi.
Oui, voilà, parce que derrière, on va un peu en marche arrière.
Les prédateurs sont de retour.
C'est ça. On pensait d'avoir perdu, avoir fait des grandes victoires, en fin de compte... plus tant que ça.
C'est ça, et nous, à notre échelle, du coup, association, on est surtout, comme avec la toute première association, c'est l'éducation populaire, et donc on vient auprès de nos associations adhérentes tout au niveau national sur de la sensibilisation, que ce soit associative, mais aussi environnementale. On a tout un pôle qui est dédié à la gestion environnementale et aux questions écologiques. Et on a créé notamment des jeux sérieux qui viennent sensibiliser sur les questions environnementales et écologiques. Et aussi donc à permettre à échelle locale, donc des associations, de pouvoir mettre des choses en place. Et aussi au sein des universités, avec l'accompagnement des élus universitaires, donc de mettre en place ces questions écologiques au sein des universités, ne serait-ce que la mise en place de repas végétariens ou issus de circuits locaux dans la mesure où c'est possible, éviter de la délocalisation abusive de certains cours alors qu'on pourrait tout faire au même endroit et donc limiter le transport individuel de certains étudiants. Donc c'est comme ça en tout cas qu'on agit.
Vous veillez aussi sur, grosso modo, ce qu'on peut appeler l'emprise ou l'empreinte de votre activité sur la planète. Bon, écoutez, c'est parfait tout ça. On va pouvoir passer à notre association. Voilà, elle est arrivée. la Pie Verte de Seine-et-Marne. Alors, donc c'est Emmanuel donc, qui va nous parler de la Pie Verte. Voilà. Donc, alors, la Pie Verte, vous n'occupez que des pies, c'est une association que de corvidés.
Non, alors c'est un acronyme un petit peu complexe, donc je vous passerai le détail. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors déjà, on est effectivement en Seine-et-Marne, notamment dans l'est de la Seine-et-Marne, donc vraiment en milieu pleinement rural, Bassée, Montois, Provinois, Gâtinais, toutes ces régions. Et on existe depuis à peu près 20 ans, et on a vraiment une double action. La première sur la protection d'espèces menacées, donc ça peut être des oiseaux qui vont nicher dans les champs de céréales et qui menacent de se faire moissonner l'été et le printemps. Donc on va sauvegarder près de 100 couples par an, notamment de ce qu'on appelle les busards. Donc c'est vraiment très significatif.
Je le croyais dans les marais, moi, les busards.
Alors il y a le busard des marais, c'est une busard des roseaux, excusez-moi, oui. Je dis une bêtise, c'est une très bonne remarque. Mais il y a aussi le busard cendré, il y a aussi le busard Saint-Martin, qui sont des espèces qui, elles, vont vraiment nicher dans les champs de céréales. Et manque de peau, au moment de la moisson, s'il n'y a rien qui se passe, tout est moissonné, les jeunes disparaissent, et derrière, il n'y a plus rien. Donc l'action, elle est vraiment super importante là-dessus. Hein. En plus, en Seine-et-Marne, on a une grande partie des busards d'Île-de-France. Et puis, on va aussi s'intéresser un peu aux amphibiens. Voilà, on va les préserver, par exemple, au niveau de caniveaux dans lesquels ils restent coincés à côté de routes départementales. Donc, c'est à peu près 2000 amphibiens sauvés par an, des tritons, des salamandres, des grenouilles, des crapauds, etc. Et puis peut-être un dernier exemple d'action. On parlait de l'ONF tout à l'heure, de la forêt domaniale. En forêt domaniale de Seine-et-Marne, on a effectué le repérage d'une bonne partie des nids de rapaces qu'on a dans ces forêts-là, donc des buses, des autours, des éperviers, des bondrées apivores. Et on suit à peu près 200 à 250 nids dans les forêts de Jouy-le-Châtel, de Villefermois, de Sourdin, donc c'est vraiment important. Et puis en parallèle de tout ça, une sensibilisation à l'environnement et puis un travail avec les parties prenantes, hein, parce qu'on parle du monde agricole, au quotidien, chaque année, on travaille avec des dizaines de cultivateurs pour en particulier préserver les oiseaux menacés dans les cultures.
Mais est-ce que le public, parce que là tu nous éveilles un petit peu aux richesses de la biodiversité francilienne, on n'est pas tous à savoir qu'il y avait autant d'espèces de rapaces à quelques kilomètres de chez nous. Est-ce que les habitants le savent ?
Alors les habitants le savent plus ou moins, effectivement. Donc c'est aussi notre job de faire des animations auprès des scolaires, au sein de collectivités, des stands, dans les journées des associations, de présenter toutes ces actions. On a un ensemble de panneaux pédagogiques, hein, plus de 50 panneaux aujourd'hui sur justement les espèces de Seine-et-Marne, comment les reconnaître, là où elles vivent. C'est une exposition qu'on diffuse vraiment beaucoup. Voilà. Donc une sensibilisation à ces espèces-là. Et puis on a un bénévolat important, hein. On a 60-70 bénévoles qui nous accompagnent chaque année, qui vont nous aider à protéger les busards dans les champs d'orge, dans les champs de blé, qui vont faire le comptage des nids de rapaces, notamment en hiver. Donc ces bénévoles, nos 220 adhérents, sont aussi des personnes qu'on applique directement sur nos actions. Mais à côté de ça, c'est important aussi d'aller dans les villages, dans les villes, dans les écoles, et puis de porter la connaissance.
Ce patrimoine ornithologique, toutes ces espèces d'oiseaux rapaces, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est des animaux magnifiques. Ça va bien ? Elles se développent ou au contraire, elles sont en régression ?
Alors, on a un effondrement actuellement global de la biodiversité, absolument indéniable. Les rapaces sont un peu les clés de voûte des écosystèmes, c'est les espèces prédatrices. Les populations de rapaces, ça dépend lesquelles. Voilà, y en a qui sont vraiment en régression. Je crois que le busard Saint-Martin, on a des très mauvais chiffres, notamment européens, parce qu'il faut voir assez large aujourd'hui. La biodiversité agricole, comme on le sait, c'est aujourd'hui des espèces, notamment les oiseaux des champs, qui sont vraiment chute libre. Enfin, c'est très impressionnant. Donc globalement, c'est une tendance à l'érosion. On a quelques espèces aussi dans un contexte de réchauffement climatique qui reviennent un petit peu dans nos régions, qui reviennent nicher chez nous, ou qui en tout cas étendent un peu leur aire de répartition. Voilà, globalement, la tendance n'est pas très bonne. D'autre part, si on ne fait rien, on se retrouve avec tous les busards, tous les jeunes busards qui sont tués ou presque.
C'est-à-dire qu'ils sont moissonnés, ils passent dans la moissonneuse batteuse.
Ils passent littéralement dans la moissonneuse batteuse, d'où le fait de vraiment prévenir et travailler avec les cultivateurs pour éviter ça.
Alors justement, les techniques, parce qu'elles existent, les techniques pour éviter de les concentrer, parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand les moissonneuses batteuses attaquent par la périphérie, elles concentrent les bestioles au milieu du champ et le massacre se fait.
C'est un vrai sujet. On l'a avec la méthanisation aujourd'hui, parce qu'on sait quand on fait l'ensilage, donc quand on ramasse les cultures, notamment qui vont être valorisées, les machines vont très très vite. C'est des machines qui vont très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Et donc il y a plein d'espèces qui peuvent passer à la trappe. On parle de busards, mais il y a aussi des fans de chevreuil, il y a aussi des lièvres, il y a aussi des perdrix, des cailles, etc. Donc oui, il y a un enjeu. Alors ça dépend comment les machines effectivement avancent dans le champ. Mais c'est pas forcément évident le nid de rapace, vous tombez un peu dessus au dernier moment, finalement. Et c'est aussi valable pour d'autres espèces. Donc, si vous n'êtes pas prévenu, s'il n'y a pas... Nous, on met des piquets, par exemple, pour les signaler, et ça marche aussi avec d'autres espèces. Si le cultivateur ou la personne qui conduit l'engin n'a pas ces infos-là, la destruction, elle est malheureusement très fréquente, parce que c'est très difficile d'éviter au dernier moment.
Et comment vous qualifiez vos relations avec les agriculteurs, justement? Ils sont sensibles? Vous arrivez à les convaincre? Ou alors, ça reste vraiment un dialogue de sourds?
Alors, c'est un enjeu énorme, hein, aujourd'hui, de vraiment concilier, enfin, de pas opposer, bien évidemment, la protection de la biodiversité, l'écologie et l'agriculture. C'est absolument fondamental de garder les deux ensemble, hein. Beaucoup essaient de nous séparer les deux, mais faut surtout pas faire ça. Oui, on travaille sur le terrain, on est directement avec les cultivateurs, voilà, on les croise dans les champs, on discute, on les rencontre, on les appelle, le travail se passe bien dans la grande majorité des cas, voilà. On a des cas plus difficiles, on a encore quelques destructions avérées de nichés par l'humain, ça arrive. Donc le travail sur le terrain se passe bien, et je pense que c'est ce travail-là et ces retours d'expérience de terrain qu'il faut valoriser pour voilà, que dans le futur, bah, on continue à cultiver et en même temps à préserver la biodiversité agricole. C'est vraiment un enjeu clé aujourd'hui.
Oui, parce que ça peut être valorisant quand même de montrer que... qu'on a autant de patrimoine de grande valeur sur son outil de travail, sur son lieu de travail. On n'en est pas tous là, quoi.
Oui, et puis on dit que les busards, notamment, parce que c'est des rapaces, des prédateurs, sont des auxiliaires de culture, donc ils peuvent aussi réguler des campagnols. Donc il y a cette logique un petit peu aussi de service rendu par la biodiversité, hein, notamment par rapport à des ravageurs. Donc oui, déjà, c'est sympa d'avoir ces espèces-là. C'est des beaux oiseaux. Voilà, il y a un côté un petit peu emblématique et un côté de préserver le patrimoine naturel qui est vraiment très, très tangible. Et puis en plus, c'est des espèces qui vont rendre aussi les services. Donc voilà, elles ont tout intérêt, selon nous, et même dans l'absolu, je pense, à être en harmonie avec le monde agricole.
D'accord. Bon, bah écoute... Et alors, vous avez combien d'adhérents? Donc...
Alors, c'est aujourd'hui, c'est 2 salariés, une 60-70 bénévoles et plus de 220 adhérents. Donc, voilà, un bel ancrage local en Seine-et-Marne.
Et la commune de, comment dire, le siège, on peut vous rencontrer où plus...
Alors, on est basé dans une commune de près de 3000 habitants qui s'appelle Dennemarie-Dontilly, dans la belle région du Montois. On a un site web, pivertebio.fr, et on est sur les réseaux sociaux aussi.
D'accord. Bon, on n'aura pas beaucoup parlé de salamandres, mais...
On a aussi des salamandres orangés. Ah. C'est des animaux absolument magnifiques, avec des taches oranges. Et on en prend soin, mais on en préserve chaque année. Voilà, les salamandres orangés. Donc, il n'y a pas que les jaunes.
D'accord. Il n'y a pas que celles de François 1er, quoi. C'est ça?
Exactement.
Et vous retrouvez les informations et les coordonnées de cette association, la Piverte 77, sur la page Instagram de l'émission.
Eh bien, nous, on va attaquer par la dernière association, qui est représentée par Maxime. Alors, dis-nous tout, que veut dire ce sigle, cet acronyme de ASEM? Bon, pour moi, les ASEM, c'était les agents de services maternels.
C'est un peu différent, c'est l'association de sauvegarde des étangs de la Minière. Alors, les étangs de la Minière, c'est des étangs qui constituent les premières retenues d'eau de la Bièvre. Donc juste au début de la source de la Bièvre. Donc, est-ce que vous connaissez la Bièvre?
Oui. Absolument.
Voilà. Alors, elle part du plateau de Saint-Quentin, qui est à environ 165 mètres de haut. Et tout de suite, elle a creusé une vallée de 80 mètres de profondeur. Et un certain Colbert, qui voulait arroser les jardins de son patron, a créé des étangs pour pouvoir prendre l'eau.
Oui, et elle se jette où, la Bièvre?
Elle se jette dans le 5e, au Jardin des Plantes.
Voilà, absolument. Et rue Mouffetard.
Pour reparler de Mitterrand, c'était le coin de la rue où habitait Mitterrand, du temps où il était président.
Voilà. Et la rue Mouffetard travaillée avec la Bièvre, puisque ça s'appelait la Mouffte, ça puait, parce que c'était les tanneries. C'était les tanneries avec l'eau de la Bièvre.
Voilà, et glacière, on faisait de la glace avec la Bièvre, et pareil, les gobelins qui venaient, la fontaine des gobelins, c'est un des noms de la source de la Bièvre dans notre belle forêt.
Et elle a un rôle très important aussi, puisqu'elle sert de source, elle est canalisée pour ça en fait, hein, elle est même protégée. Elle passe à Ville-Génis, du côté de Massy, là. Où elle est protégée, et on se demande comment elle est protégée, puisque j'ai une anecdote, moi, il y avait la Wehrmacht qui était installée au château de Ville-Génis, et qui a fait toutes les vidanges de ses chars pendant toute la guerre,
Dans la bière.
Dans la Seine et puis ensuite dans la mer. Donc ça, c'était effectivement là, avant, comment on traitait l'environnement. Mais dans les années 70, dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc nous on est basé à Guyancourt, qui est une des communes de cette ville nouvelle, un monsieur a commencé à s'énerver contre, à l'époque, le tracé de la 12. Donc c'était un ancien tracé de la 12, finalement, qui ne fut jamais vraiment terminé. Et donc l'association a été créée en 1980. Et elle était à la base apolitique. Elle a pris des contacts à l'époque avec les équipes de Giscard et les équipes de Mitterrand. Et finalement, ont été décidés qu'il n'y aurait pas la 12 qui passerait à cet endroit-là. Mais génération après génération, des présidents, des bénévoles ont continué à préserver la nature à Guyancourt, préserver la forêt, préserver les étangs. Donc on a 25 hectares d'étangs. On est dans une forêt de 1000 hectares. C'est la forêt de Versailles. Et donc voilà, on œuvre à préserver les écosystèmes, à lutter au maximum contre l'imperméabilisation des terres. C'est très présent, on est juste à côté du plateau de Saclay aussi. Et voilà, on plante des arbres dans Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la vallée de la Bièvre.
D'accord. Et elle est menacée par quoi? Donc vos étangs, qu'est-ce qui peut aujourd'hui les menacer?
L'urbanisation, donc la Saint-Quentin-en-Yvelines arrive à 250 000 habitants. Il y a la ligne 18 qui va passer sous les étangs. Donc avec la ligne 18, ils ont construit des gros puits d'aération. De l'autre côté, il y a le quartier de Satory à Versailles, donc là qui va commencer à se développer de plus en plus. Donc forcément, ça fait une pression. Je vous parlais du plateau de Saclay juste à côté. Pareil, une grosse pression foncière à cet endroit-là. C'était des terres agricoles très productives, des terres de céréales principalement. Alors maintenant, il y a certains pouvoirs publics qui essaient de faire du maraîchage. Mais ce qu'on voit, c'est de la construction, la ligne 18, et on essaie au maximum imperméabiliser ces endroits, parce qu'on vit là-bas, c'est une terre argileuse, donc il y a des problèmes de contraction du sol, et puis derrière, si on imperméabilise tout, on ne va pas retenir l'eau chez nous, et elle tombera ici dans Paris.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, on va pouvoir un peu continuer encore sur les étangs de la minière. Excusez. Relève-moi.
Oui, dans l'étang de la minière, on connaît un peu le plateau de Saclay parce qu'on habite pas loin et il y a eu effectivement des actions, mais qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits puisque la bétonisation, elle avance. Il y a encore beaucoup de grues. C'est peut-être l'endroit de l'île de France où il y a le plus de grues en ce moment. Donc comment vous en voyez l'issue, et la bière continuera à être protégée ou il y a vraiment un risque qu'un jour, elle soit littéralement assiégée.
C'est partout. Alors déjà, il faut éduquer les gens. On est beaucoup à avoir des jardins là-bas, donc il ne faut pas oublier que quand l'eau coule dans notre... Quand il pleut chez nous, eh bien, elle finit dans la Bièvre, donc bien faire attention.
Dans l'Yvette aussi.
Dans l'Yvette aussi, oui, ça dépend de quel côté on est. Et puis, il y a vraiment un sujet qui nous touche en ce moment, c'est par rapport au nettoyage de la forêt. En fait, c'est une forêt qui est quand même relativement récente, puisqu'avant, il y avait des fermes, donc notamment la ferme de Bouvier à Guyancourt, ça ne vous dit peut-être rien. Mais au bout de cette ferme, vu qu'il y avait une grosse pente, je vous ai parlé de cette vallée de 80 mètres de profondeur, c'était très pratique pour jeter tout ces déchets. Donc pendant des décennies, ils ont jeté leurs déchets. Et comme c'est très pentu et que ça s'érode beaucoup, on a 60 tonnes de déchets qui sont de déchets de verre principalement, qui sont enterrés à cet endroit-là, qui datent du début du XXe siècle et qui commencent à s'éroder et à tomber sur les chemins de randonnée. Donc là, notre dernière action, en septembre, on a sorti 1,5 tonne de verre. On était 25 bénévoles un samedi matin. En tout, depuis 2019, on a retiré 5 tonnes de verre et il en reste, on estime, 55 tonnes. Voilà.
Ah oui, ça fait quand même quelques matinées.
Ça fait quelques matinées. Alors, en plus, on a retrouvé des produits industriels d'entreprises qui existent toujours, des parfumeries, des bouteilles d'eau, des bouteilles de bière, des bouteilles d'alcool, on ne va pas toutes les citer. Mais on a essayé de contacter ces entreprises qui existent toujours, qui sont des multinationales, qui font beaucoup d'argent, pour savoir si vous voulez nous aider un petit peu. Donc on n'a jamais reçu d'aide, aucune municipalité ne veut nous aider. Alors si la municipalité de Guyancourt nous affrète un camion poubelle pour ramasser, mais effectivement ce problème, personne n'en prend la mesure.
Parce que là, si vous laissez se faire les choses, c'est le chemin qui est enseveli par les éboulements.
C'est ça. En fait, à chaque fois qu'il pleut, à chaque fois que ça s'érode, il y a des morceaux de verre qui tombent sur les chemins que les gens empruntent avec leur vélo, avec leurs enfants, avec leurs chiens.
Mais voilà. Et ça, comment dire, perturbe pas plus que ça la municipalité?
C'est une forêt domaniale qui est gérée par l'ONF. On est sur le territoire de la municipalité.
Et alors, qu'est-ce que dit?
Bah, chacun se rejette, se renvoie la balle, et au final, c'est nous, la SEM, on est dans l'action. Des bénévoles nous rejoignent, et puis c'est rigolo, ça fait un peu d'archéologie.
Oui, c'est voilà. Vrai.
On apprend comment vivaient les gens à l'époque. Donc, ils buvaient du champagne, ils jetaient leur pot de chambre à côté. Voilà.
Oui, sinon ça peut être des exemples à ne pas reproduire, c'est clair.
Exactement.
On
prend conscience de ça.
D'accord. Et tout un chacun, vous avez des rendez-vous à nous annoncer, vos prochains. Est-ce qu'il y a des manifestations dans les semaines à venir? Est-ce que vous allez nous convier quelque part?
Si.
Oui. Alors, on rentre dans la période très forte d'animation, où les gens, et ça y est, il fait beau, les gens sortent, ils ont envie de s'impliquer. Alors, on a des rendez-vous très sympathiques que les gens attendent avec impatience. Ce sont les festivals de musique, Solidays, Lollapalooza, etc., où les jeunes, maintenant, ne veulent plus seulement écouter de la musique, mais aussi s'engager. Et ça permet, nous, encore une fois, de toucher des publics qui, au départ, ne sont pas peut-être intéressé par ces sujets d'écologie. Ça, on adore. Ça sera tout l'été. Et sinon, en ce moment, en avril, donc je vous avais parlé du City Nature Challenge qui a lieu le week-end du 26-27 avril. Rendez-vous au Parc de l'Île Saint-Germain, 92, ou au Parc de l'Île Saint-Denis, 93. Nous avons un événement que j'adore. Chaque année, nous faisons le braquage de la Fête des Mères. Fête des Mères, fête éminemment commerciale, qu'on détourne, que l'on braque, pour remettre justement le projecteur sur les mamans veulent protéger leurs enfants avec un monde plus sain, plus durable, plus de justice. Donc on va parler, ça va parler aussi bien de qualité de l'air, de violence policière, de violence administrative.
Oui, c'est pas que des colliers de nouilles.
Non, justement, on en a marre de se faire arnaquer avec les colliers de nouilles, justement. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi. C'est des sujets importants, il faut les traiter de manière importante, donc il faut arrêter de nous offrir des aspirateurs ou des fleurs.
Un air fryer, non?
Un air fryer, voilà. Et bien sûr, au mois de mai, il y a la fête de la nature. Je suppose que vous avez tous des programmes.
On a prévu une émission fête ou défaite, voilà, de la nature.
On sera devant le MNHN avec nos stands où on parle très souvent, nous, des mal-aimés de la biodiversité, parce que tout le monde veut sauver des belles espèces, peut-être des rapaces, etc. Mais dès qu'on parle d'autres espèces, les rats, les cafards, les pigeons, là tout de suite ça sort les pesticides, les produits bégon vert, bégon jaune pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, nous ce qu'on essaye de dire, c'est que la nature c'est un écosystème. Dès qu'on commence à introduire des produits chimiques, ça touche tout le monde. Enfin voilà, et il y a pas mal d'opérations comme des opérations de ramassage de mégots, mégotons. Ça encore une fois, c'est une manière.
Le mégoton.
C'est trop bon. Concours à travers entre plusieurs villes sur celui qui va ramasser le plus de mégots. Enfin voilà, j'ai pas tous voulu faire parce qu'il y en a plein. Ça ne va pas arrêter. Et il faut que ce soit fun. C'est vraiment le mot d'ordre de l'association. Il faut qu'on prenne du plaisir, qu'on passe du bon temps ensemble, qu'on s'entraide, parce que les gens ont cette image un peu de l'écologie punitive, alors que nous, ce dont on veut parler, c'est du vivre ensemble.
Et puis de l'écologie rigolote, si j'ai bien compris.
Bah, la méthode est rigolote, le sujet est très sérieux.
Oui, non, on a bien compris.
Alors, pour les amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly, alors on a tout un calendrier de sorties qui est disponible sur notre site internet. Et on va pour la première fois organiser un concert dans la forêt de Marly. Ce sera le 13 juin prochain à 20h. Dans le cadre du festival Nuit des Forêts. Alors, on a l'accord de l'ONF pour organiser cet événement. Ce sera de la chanson française traditionnelle, Brassens, Aznavour. On aura un violoniste, un accordoniste, un saxophoniste. Ça promet d'être quelque chose de très convivial. C'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement. Et c'est toujours pareil pour trouver des occasions d'amener des gens en forêt. Donc,
ça ne va pas faire peur à la faune.
Alors, on ne prend pas d'instruments électrifiés. Hein, donc, moi, j'aime beaucoup le hard rock, mais on n'aura pas de hard rock cette fois-ci.
Et à la Pie Verte, ou à la FNEIGE,
Merci. Bah alors nous, c'est plus global, mais c'est vendredi, donc le 4, il y a la Geonight qui a lieu en France, mais dans le monde.
Geonight.
D'ailleurs, là, on sait qu'on a quelqu'un qui nous écoute depuis Rio, donc normalement, depuis Rio, il y a aussi des événements. Et donc, justement, c'est organisé. C'est géré par l'UGI et par le GEO, donc l'équivalent de la FNEG, mais pas pour les étudiants à l'échelle française et européenne internationale. Et donc là, c'est des événements qui vont être créés soit par des assos étudiantes, soit par des assos...
Alors, vous allez faire quoi, vous, la FNEG ?
Nous, rien. Ah. On aide nos assos locales à organiser des événements...
Alors, voilà. Est-ce qu'il y a une assos qui a fait quelque chose que vous avez en tête et que vous pouvez nous expliquer ?
Eh bah, bien, tout particulièrement pour nos amis parisiens et parisiennes, il y a une petite conférence à l'Institut de la Géographie vendredi soir sur les questions des frontières européennes.
Eh bien... On va terminer sur ce... Ou... Allez, la piverte, quelques secondes.
Un programme d'animation annuel en Seine-et-Marne et ailleurs sur les sites naturels consultables sur notre site, entre autres.
D'accord. Bon, bah, il nous reste, on arrive à la fin de l'émission. On va se retrouver la semaine prochaine sur une thématique encore agricole, parce que c'est vrai que l'agriculture, c'est un peu comme la géographie, ça fédère beaucoup de choses. C'est un peu systémique, comme pour reprendre une terminologie de caméra. Donc oui, la semaine prochaine, ce sera l'agriculture biologique et l'agriculture urbaine, avec un géographe de la fac de Sorbonne. Mais bon, il me reste à remercier Armand. Et puis à la semaine prochaine.
Merci à tous.
Allez, à bientôt.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.